Nous allons d'abord commencer par et dans la prière. Père éternel, par ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ton affection et par qui nous venons dans la grâce devant ta face, librement, nous remettons entre tes mains ce message, que tu puisses le rendre pratique pour l'orateur d'abord, et que dans la communion fraternelle, nous puissions vivre selon le désir de ton cœur. Pardonne-nous les limites, nos limites de pensée ou des mots que nous allons utiliser, que je vais utiliser. Et je te prie de les sanctifier par le sang de ton bien-aimé Jésus-Christ. Que tu puisses les éclairer. Et que les erreurs de ce message se transforment en une leçon que tu donnes à chacun de mes frères et sœurs. Que ces limites humaines se transforment en une réalité infinie que toi seul peux mettre dans le cœur, dans nos cœurs. Je te remercie pour ton enseignement et je te prie de guider toutes choses selon ta volonté, parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une scène que vous connaissez. C'est la tentation du Seigneur dans le désert, que tout le monde connaît. Il y a eu des messages sur ce message, sur cette réalité-là. Et il faut savoir que la parole de Dieu, on peut la lire 1000 fois, il peut y avoir 1000 messages différents. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. Il n'y a pas un message unique. Quand on vous dit que ce passage-là ne veut dire que ça, c'est qu'on trahit la vie qui accompagne la parole de Dieu. On peut lire le même message, tous ensemble. Et bien le message parlera différemment à moi qu'à chacun de vous. Et pourtant, c'est la même parole, ça que Dieu parle à chacun de nous. Donc ce que nous allons partager ce matin n'est qu'un grain de sable, quelque chose que nous parle, en sachant que ce n'est pas la réalité d'Abdel. Non, c'est une façon de voir les choses, ce que moi j'ai compris, que d'autres ont compris, mais ce n'est pas l'unique. Ça se peut que je suis à côté aussi de la réalité. Et c'est pour ça que dans la prière, que Dieu utilise son esprit pour qu'il nous éclaire tous selon sa volonté à lui. Je tiens à le préciser. Donc vous pouvez acheter des livres et des livres sur ce passage-là, et tous les livres sont certainement bons. Vous pouvez faire votre propre lecture et votre propre compréhension, elle sera certainement bonne. Du moment qu'on est dans la racine de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dévier avec des philosophies qui nous éloignent de cette réalité, où en Christ, nous avons notre réalité et en Christ, nous sommes perdus. Alors notre passage se trouve dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. Et si je dois donner un titre à ce message, et là je m'adresse à Jean-Louis, je le dis tout de suite, c'est les trois aspects fondamentaux de la tentation. Les trois aspects fondamentaux de la tentation. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ou si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez, nous connaissons tous ce passage-là. Il est très intéressant de voir cette tentation du Seigneur. Premier élément, le désert, 40 jours. Si vous prenez l'histoire de la Bible, quand il est question 40 jours, 40 ans, 40, il est question de l'épreuve. L'histoire de la Bible, si vous prenez les 40 ans, 40 jours, etc., c'est souvent, c'est l'épreuve. Mais l'épreuve qui peut soit aboutir à la mort, soit aboutir à la vie. Hein? C'est ça l'épreuve. Quand on est dans l'épreuve, soit elle nous rend plus fort, au bout, elle donne la vie, soit elle nous détruit, hop, c'est la mort. Donc l'épreuve, elle est là, tout dépend de l'issue. Tout dépend pour qui. L'épreuve pour le peuple juif, ça a donné la terre promise, et pour le pharaon et son peuple, la destruction. Oui, ça dépend dans quel camp on se situe. Et deuxième remarque, le diable, là, dans la tentation. Vous avez remarqué qu'il utilise la Bible ? Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise la Bible que ça y est, on est des enfants de Dieu. Hein. C'est que même le diable utilise la parole de Dieu pour dire à Jésus, voilà, il est écrit, oui, pour le tenter. Donc, ce n'est pas un critère. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un dit, je connais la Bible par cœur, que ça y est, non. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas parce que je connais par cœur, ce n'est pas parce que j'ai de la pratique, etc. Ça va au-delà. C'est ce que nous allons partager ensemble. Mais je ne peux évoquer cela, la tentation, que d'évoquer les sept églises dans l'Apocalypse. Ces sept églises, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est les chapitres, je crois, 2 et 3. Si vous lisez chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il est question de sept églises. La lettre aux sept églises. Et ces sept églises, ça dépend encore comment on les interprète, encore une fois. Vous voyez, il n'y a pas une réponse unique. À travers ces sept églises, il y a beaucoup de messages. Ben, parmi ces messages de cette Église, c'est l'histoire de l'Église, jusqu'à la fin des temps. Voilà une. C'est-à-dire que depuis l'Église primitive, la première, qui est née dans la chambre haute, quand l'Esprit Saint est venu et qui commence à parler en d'autres langues, c'est la naissance de l'Église, là, jusqu'au retour du Seigneur, c'est cette Église, ça représente les étapes de l'histoire de l'Église. Et c'est pour ça, en lisant ces étapes, on dit nous sommes à la fin du temps, parce que nous sommes à la dernière Église. Et bien ces églises ont vécu ces tentations. L'histoire de l'Église a vécu la tentation. Si cette Église survole l'histoire de l'Église, depuis sa naissance dans la chambre haute, comme je l'ai dit. Certes, elle s'adressait à des églises particulières à l'époque. Mais par-delà le temps et l'espace, elle s'adresse à nous aujourd'hui. Elle s'adresse à toutes les églises, de différentes formes ou de différentes dénominations. Je me demande si ça sert les dénominations. Ça, c'est les hommes. Bon. Elle s'adresse à toutes, je dirais, les tentations qu'a connues l'Église depuis l'histoire, y compris la nôtre. On n'est pas différent des autres. On fait partie de cette histoire. Si nous parcourons rapidement cette histoire de cette Église, rapidement, ce n'est pas le sujet de ce matin, on verra qu'avec la première Église, celle d'Éphèse, hein, je vous rappelle, c'est les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. L'église d'Éphèse, il est question de refroidissement. Ramenons ça à nous. Combien d'églises se sont refroidies après avoir reçu le sceau de l'Esprit aujourd'hui? Ensuite, il y a eu l'église de Smyrne. C'est une église qui a vécu la persécution. Oui, c'est une réalité, même de nos jours. Persécution. Et on ne peut que nous rappeler les chrétiens persécutés dans l'histoire des chrétiens. L'histoire de la chrétienté, y compris les chrétiens qui souffrent encore aujourd'hui. Pensons à eux dans la communion fraternelle. Ensuite, si nous passons à l'église suivante, c'est l'église de Pergame. C'est la tentation du bourgeoisement. Ah, ça nous rappelle des choses aujourd'hui. Bourgeoisement. De l'emprise des finances. N'allons pas, regardons autour de nous. N'allons pas jusqu'aux États-Unis, même en France, regardez. Le poids de l'argent dans l'église. C'est l'église de Pergame. Et Dieu, déjà, il lui demande de se repentir. Entre parenthèses, à toutes ces églises, sauf deux, il leur demande, j'attends de vous que de vous repentir. Lisez c'est cette lettre ou cette église. Vous allez voir tout ça. Oui, je pense à certaines églises de nos jours, je dirais en Occident. J'aime bien dire en Occident. Oui, parce que dans les pays en Orient, tout ça, ben, ils sont persécutés. Donc, il n'y a pas de finances. Voilà. Mais quand on est dans la satisfaction générale, dans la suffisance, oh là là, il y a même des clubs de sport dans les églises. Attention, il y a des centres de formation. On peut partir en vacances. Il y a même des centres. On peut réserver ses vacances et tout, bien sûr. Bon. Plus loin, on arrive à l'église de Thyatire, qui symbolise ce piège de l'idolâtrie, de l'impureté et des philosophies diverses. Ben voilà. On est dans une époque, si vous voulez, si je dois résumer, où nous avons toutes les tentations. C'est ça notre époque. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fin des temps. C'est que ce que je suis en train de dire, on ne dit pas il y a combien de siècles. Normalement, ça dure ça comme ça, parce que c'est la progression. Mais en fait, on se rend compte, il y a tout ça. C'est terrible. Le Seigneur dit, je vomirai. C'était... Déjà, il critiquait une église qui a un défaut. Il dit, tu dois te repentir. Mais imaginez, aujourd'hui, il est en train de nous repentir plusieurs fois parce qu'on ressemble à plusieurs églises. Ça m'a marqué, ça. Une église que nous trouvons de nos jours avec des philosophies, bon, qui font dévier des chrétiens vers des croyances trompeuses, et merci Dédie pour ta lecture, c'est justement, on devient des ennemis de la croix. Ensuite, nous arrivons à l'église de Sardes, qui représente, justement, la suffisance. Tu vois bien? L'endormissement. Combien de chrétiens viennent dans les églises aujourd'hui, quand ils viennent, pour suivre une tradition? Et surtout, pour qu'on me voie, je vais à l'église. Mes voisins, ça, je vais à l'église. Ma famille voit l'église. Mes frères et sœurs voient l'église. Vous voyez? Suffisance. Et dans la semaine, ils mènent une vie qui n'a rien à voir avec une vie chrétienne. Mais au moins, c'était accompagné de la repentance. C'est humain de vivre mal. Mais au moins, avoir ce sentiment de repentance devant Dieu, dans sa chambre. Comme s'ils n'ont rien reçu. C'est l'image de l'église de Sardes. En sautant par-dessus l'église de Philadelphie, et là, je vous conseille de le lire, parce que l'église de Philadelphie, c'est l'église qui a gardé la parole de Dieu. C'est elle qui dit ne te repens pas. Mais je te laisse lire, et je vous laisse lire ce passage. Nous arrivons à Laodicée. Laodicée qui est en quelque sorte l'apostasie finale. Ah, on est à la fin des temps, hein. L'apostasie finale. C'est quoi? Le compromis avec le monde, le compromis entre le monde et l'Église. Lisez, chapitre 2, chapitre 3, j'invente rien, je vous demande de lire, vous allez voir tout ça, Laodicée. C'est le compromis total. Alors là, l'Église qui rentre dans, le monde qui rentre dans l'Église. Ça veut dire en fait, voilà, le compromis. C'est terrible. C'est à cette Église qu'il dit, ni froid ni bouillant. C'est l'Église mondiale même, je dirais. D'ailleurs, le temps, quand on lit la parole de Dieu et quand on se projette, c'est l'Église mondiale comme on voit venir. Car un jour, il y aura bien une Église mondiale. Ou peut-être elle ne portera pas le mot Église, attention. J'appelle ça un pouvoir mondial, si vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Hein? Mais si ça ne porte pas le mot Église, un pouvoir mondial, si vous voulez. Une pensée mondiale qui rassemblera toutes les croyances que vous pouvez imaginer. Pour toutes les religions, on va trouver un compromis entre tout pour fabriquer un pouvoir mondial. Et c'est écrit dans la parole de Dieu et ça chemine vers cela. C'est l'église de Laodicée. Vous voyez bien que l'Esprit parle aux églises, hier, aujourd'hui. À travers ce survol rapide de ces églises citées dans l'Apocalypse, je vous invite vivement à relire ces sept lettres aux églises. On a vu le côté sombre. Oui, donc Abdel voit juste le côté sombre, vers un motif. Oui, non, mais il n'y a pas que le côté sombre, hein, attendez. On est avec le Seigneur, il y a la paix, la joie, et heureusement. On a vu le côté sombre, le côté négatif de l'histoire de ces églises, mais il y a aussi l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne. Lisez-les. Et là, il y a le côté joyeux, parce que s'il y a une défaite, il y a une victoire. L'église de Philadelphie, l'église qui réjouit le cœur de Dieu. Il y a un côté réjouissant pour le cœur de celui qui aime son Seigneur. Ce sont d'ailleurs les réveils qu'on a vécus, que vous connaissez, nous on connaît depuis le 19e, 16e, 18e, 19e siècle. Les réveils qu'on a constatés depuis l'Église primitive. Ces réveils ont transformé notre société. Et nous avons besoin d'un autre réveil pour transformer notre société actuelle. Et je le crois. Nous sommes dans une situation où je suis convaincu que le Seigneur ne peut pas laisser son peuple. On est à un tel point, à une situation, que Dieu ne peut qu'intervenir. Et ça, nous devons nous réjouir. Parce que souvent, la lumière, elle vient quand il fait sombre, quand il n'y a pas de lumière, quand il fait nuit. Nous sommes dans la nuit. Et d'une manière globale, je dirais, à part quelques, je dirais, endroits dans le monde où ils vivent cette communion avec le Seigneur, l'Église, aujourd'hui, l'Église occidentale, elle croit vivre dans une vérité, alors que pour moi, et je prends la responsabilité de le dire, elle est dans la séduction. La suffisance. Comme je vous ai lu les, sept églises, les lettres aux sept églises. On les a pas écrits, Dieu ne les a pas écrits, permis d'écrire comme ça par hasard. Et chacun examine la situation actuelle à travers la lecture de l'Apocalypse. Dans les crises et les difficultés de l'Église, Dieu restaure son Église. Dieu restaure les membres de son corps, disloqués par les déchirements internes. Et je ne veux même pas parler des dénominations. Et je ne veux même pas les divisions que les églises ne veulent même pas se réunir entre eux parce qu'ils disent chacun d'eux, ils vont piquer mes membres. Bon, où est-ce qu'il est le corps? C'est des questions simples. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se poser ces questions-là. Le monde nous regarde et il dit, mais regardez toutes les divisions qui sont chez eux. Comment ils peuvent donner le témoignage au monde? Puisque la division, elle est apparente même. Et en plus, elle est revendiquée. Et l'apparence de communion, on les trouve au niveau national. Trouvons un organisme qui chapeaute tout le monde. Mais au niveau horizontal, en bas, où est-ce qu'elle est la communion? Et c'est ça l'Église. Vous voyez comment on peut transformer les choses en donnant une apparence de communion, alors qu'il n'y en a pas. Lisez la lettre aux sept églises. Dieu restaure son Église. Un mouvement, un souffle qui restaure l'Église, au-delà des dénominations, des traditions, des différences, y compris l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Ne confondons pas les institutions et les chrétiens qui sont dans ces églises. On a tendance souvent à juger les catholiques par le Vatican. Je me refuse de les juger. Parce que pour moi, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, et qui se rejoignent sur le fondement que nous avons en Christ. Mais je ne suis pas en train de parler des institutions, du pape ou que sais-je. Eux, ils rendront des comptes à Dieu. Mais moi, je parle des frères et sœurs. C'est la restauration de Dieu qui rassemble son corps en dépit des habitudes et des traditions qui doivent disparaître pour laisser l'esprit souffler dans une communion fraternelle unique en Christ. Dans plusieurs endroits dans le monde, des chrétiens continuent à se rassembler dans le silence aujourd'hui, dans le silence et dans la discrétion et dans l'indifférence totale. Et l'esprit souffle et témoigne de la Seigneurie du Seigneur au sein de ces réunions. Est-ce que nous le savons? Non, parce que nous regardons à travers notre vie ici et moi le premier. Des chrétiens qui souffrent dans plein de pays, l'Irak, l'Égypte, en Afrique, en Algérie. Et pourtant ils vivent la communion avec le Seigneur. Ils sont prêts pour l'éternité. L'adversaire est en train de jeter des forces incroyables dans la bataille. Il joue ses dernières cartes. On est dans la fin des temps. L'une de ces dernières cartes est la moins visible et la plus subtile. C'est la tentation. Et je vous invite vraiment à relire ce passage que j'ai lu tout à l'heure, Luc 4, 1, 13, pour voir les différentes tentations confrontées le Seigneur. Ce n'est rien d'autre que la tentation que son corps, c'est-à-dire l'Église, vit et vivra. Dieu à la fin des temps. C'est tout simplement ça. Ce qu'il a vécu, en fait, ce n'est pas pour l'histoire. C'est pour nous dire, voilà ce que je suis tenté. Ben, l'Église vivra la même chose. C'est ça le message en fait, de la tentation du Seigneur, on nous a raconté dans Luc. Christ a été tenté comme nous. Et d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure Hébreux 4:15, où je dis qu'il est tenté en se mettant à notre place comme nous. Il a eu la vulnérable comme nous, c'est-à-dire qu'il est tenté à notre place. Il a été tenté exactement comme nous, mais il a été tenté dans une dimension bien supérieure à ce que souvent nous entendons par tentation. Quand on dit tentation, nous on pense à ses mauvaises pensées, les mots, un peu les gros mots qu'on utilise, ou peut-être des actes, ou les tentations de dire des fois un mot un peu vilain, ou des fois des petites tentations, des grandes tentations. Oui, ça c'est nous, mais le Seigneur est parti au-delà, plus que ça la tentation. C'est plus que ça, parce que elle concerne même les puissances célestes. La tentation du Christ a une dimension bien supérieure. Elle est caractéristique de sa mission. Sa tentation a été un choc eschatologique, c'est-à-dire un choc d'une portée extraordinaire qui met en conflit les puissances invisibles les plus grandes. Et je parle du diable et tout ce qui l'entoure. Cette tentation, ce choc, n'englobe pas uniquement le futur de l'Église, mais le présent. Et dans quel but a été tenté le Christ? Pourquoi il était tenté, le Christ? Il était tenté d'ailleurs, quand il est sorti du baptême, rappelez-vous. Il était tenté quand l'Esprit est venu sur lui. C'est à ce moment-là que la tentation commence. C'est pour ça que le diable, quand il nous tente, c'est une bonne chose. Ça montre en fait qu'il a peur. C'est un signe quelque part, comme le Seigneur. C'est que le baptême, l'Esprit, c'est que, celui-là, ce n'est pas un chrétien ordinaire par la pratique. Là, il y a quelque chose en lui qui me fait peur. C'est quelque chose qui nous parle. Toujours dans le même but de dévier le Christ de sa mission, car l'adversaire ne voulait pas que le Christ meure en se sacrifiant sur la croix. Il aurait bien voulu voir le Christ mourir d'une mort naturelle, sur son lit comme n'importe qui. Et c'est ce qui est marqué dans la religion musulmane. On ne met de côté la crucifixion du Seigneur sur la croix. Donc, le vrai Christ, il est monté au ciel, il n'est pas mort sur la croix. On met de côté le sacrifice. Et le monde n'aurait jamais connu le salut s'il n'était pas mort sur la croix, le Seigneur. Donc, un grand effort de déviation est déployé afin de pousser Christ à dévier de la volonté de son Père. C'est exactement ça que l'adversaire vise. C'est là que va agir la tentation, qui est une réaction des puissances de l'obscurité contre l'intention divine et contre sa position en Christ crucifié et ressuscité. Quand nous examinons la tentation du Seigneur pendant les 40 jours, nous pouvons relever trois aspects fondamentaux de la tentation. Trois. Mais avant, d'abord, quelle est la réalité de cette tentation? Si vous examinez ce récit, vous remarquerez que cette tentation, ce n'est pas du théâtre. Il y en a même qui disent, c'est une histoire, c'est juste un message. Ce n'est pas du théâtre. C'est une réalité. Théâtre. C'est une tentation réelle avec toute sa portée. On est loin de la petite tentation charnelle que l'on peut avoir de temps en temps. Le diable est à l'initiative. Il fait monter le Christ au sommet d'un temple et lui fait voir les royaumes. Rappelons que le diable lui a dit, je te fais entrer les royaumes qui m'appartiennent. Il faut le savoir, ça. Il a des royaumes. C'est pas... Non. Il peut séduire. Il séduit le monde. Il attaque de toutes les directions. Il est extrêmement mobile. Il prend l'initiative dans le dialogue. Et c'est lui qui est à l'origine du dialogue, d'ailleurs. Christ n'a pas mené le dialogue. C'est l'adversaire, car l'adversaire qui en est l'origine. Il vient tout de suite. C'est l'adversaire qui a amené le Christ. Ce n'est pas Christ qui allait dans la direction suivie par l'adversaire. L'adversaire avait l'initiative en allant à l'attaque par la séduction. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est vulnérable? On peut se braquer quand je dis ça. Savez-vous que Christ était vulnérable? Eh bien, moi, je prends le risque de vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la condition humaine jusqu'au bout. Voilà l'amour de Dieu. Jusqu'au bout. Il avait pris toutes nos faiblesses. Il était aussi vulnérable, si ce n'est plus, comme chacun de nous. Sa condition était exactement semblable à la nôtre. Il n'était pas cette image que l'on peut représenter de lui dans les caricatures, dans l'art, que ce fils de Dieu sur un cheval blanc avec une épée, je ne sais pas quoi, cuirasse, tout ce qu'on veut. Ou le surpuissant Superman spirituel. Non. Le Seigneur était comme nous, il était exposé. Il était contraint aussi physiquement. Il était tenté. Rappelons-nous la scène du jardin de Gethsémané. Quand il priait, les grumeaux sortaient de son corps. « Seigneur, éloigne-moi de moi cette coupe !» Vous voyez? Jusqu'à nous ressembler. qui a connu d'entre nous ces contraintes physiques que le Seigneur a vécues? On ne se rappelle seulement de sa souffrance sur la croix, mais il a souffert quand il était avant la croix. Il était comme nous. Mais la différence essentielle était du fait qu'il était sans péché. Ça, c'est la différence avec nous. Par conséquent, l'adversaire n'avait aucune prise sur lui, car le péché, c'est comme un tremplin pour l'adversaire. Il pose pied sur toutes les zones obscures de notre vie, et à partir de là, il commence à envoyer ses attaques sur nous et autour de nous. Le Christ était absolument sans péché. Voilà la réalité de la tentation du Christ. Il était tenté en étant sans péché. Revenons maintenant aux trois aspects de la tentation. Tout d'abord, le Christ était tenté d'abuser de sa qualité de fils de Dieu. Si vous suivez la lecture que nous avons faite dans Luc. C'est-à-dire d'abuser de la puissance reçue dans le but de satisfaire des besoins immédiats. Que ces pierres deviennent du pain. Voilà la tentation. Il avait faim. Il y avait des besoins immédiats comme nous. C'est légitime. Donc la tentation est d'abuser de cette puissance pour satisfaire des besoins immédiats. Cette tentation guette l'Église aujourd'hui. Quand cette Église, avec quelques-uns de ses membres, utilise cette puissance de l'esprit pour une satisfaction de besoins immédiats. Vous êtes malade, venez devant, on prie pour vous, vous devez être guéri, immédiat. On ne remet pas en question la guérison, mais c'est l'immédiateté humaine. C'est écrit maintenant, hop, immédiat. Si ça ne se fait pas, on trouve des excuses. Pour une recherche de solutions instantanées à tout problème, c'est-à-dire voir la chose s'accomplir immédiatement, comme une guérison que je viens de vous dire. Et souvent aussi pour satisfaire une curiosité spirituelle, une soif de surnaturel. On en met même des affiches. Vous avez des problèmes, venez en prie pour vous, vous êtes guéri. On met des témoignages et on cherche la dénomination où on trouve tout ça. Donc on est attiré par le sensoriel, l'immédiateté. Ainsi, c'est là la façon la plus subtile de sombrer dans le charnel, de faire des dons spirituels un assouvissement de ses besoins charnels. Et les Corinthiens sont tombés dans ce piège. Je vous invite à lire les deux lettres aux Corinthiens. Ça résume ce que nous venons de dire. Vous voyez, une église, une histoire de l'église. Et nous, nous combinons tout ça. L'issue de sortie de cette tentation, ça c'est le côté négatif. L'issue de cette tentation, c'est la réaffirmation des priorités. La parole de Dieu créant l'univers et recréant l'homme en Christ. Voilà le miracle des miracles. Voilà la priorité des priorités. C'est cette même parole qui révèle la sagesse de Dieu pendant les difficultés. Par conséquent, vous voyez bien que la recherche d'une solution immédiate, qu'elle soit surnaturelle ou non, est l'expression d'un certain aveuglement. Et cet aveuglement nous conduit précisément à la panique, à la hâte, qui nous fait retomber dans notre état d'homme charnel. Prenez l'exemple du Covid. Voilà, on en a un exemple. Dieu nous demande la patience, la confiance en lui. Il a la réponse, mais en s'entendant à lui, pas le nôtre. Deuxième tentation du Christ. Il est tenté d'user de sa qualité de fils de Dieu. En effet, l'adversaire fait étalage d'une gamme importante d'offres. Une domination sur le monde, acquisition d'une autorité qui d'ailleurs n'est pas toujours d'apparence diabolique. Quand Dieu fait une offre, regarde le monde, quand on regarde ce qu'il lui offre, même on le voit aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a rien de diabolique. C'est bien des fois. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bien. Mais l'esprit qui règne qui est mauvais. Oui. Et c'est d'ailleurs l'image de cette tentation qui a toujours guetté l'Église et qui l'a infiltrée même. L'Église peut être obsédée par une soif de puissance surnaturelle. Mais aussi la tentation qui est la conséquence d'un manque de discernement quant à l'origine de cette puissance. La tentation peut ainsi résider dans la façon comment l'Église exerce la puissance et l'autorité. Pas sur les hommes, l'autorité que la Bible parle. C'est l'autorité sur les esprits. Or, c'est un commandement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrivait « Contrôlez les esprits et contrôlez les prophéties. » nous cherchons à contrôler les hommes, faute de contrôler les esprits. Cette tentation, on la rencontre dans des églises d'aujourd'hui, avec des personnes qui cherchent une puissance, une reconnaissance en tant que pasteur, en tant que dirigeant, une recherche d'admiration de soi ou d'une admiration par les autres. Nous voulons exister. Eh bien, la porte de sortie à cette deuxième tentation se trouve dans une recherche exclusive de la volonté et de l'intention divine. Luc 4, 8, je lis, « Tu adoreras ton Seigneur Dieu tout seul, et lui seul tu serviras. » Voilà la réponse du Seigneur, le tentateur, dans le désert. Voilà la priorité à montrer et à se rappeler pour échapper à cette deuxième tentation qui a pour objectif de nous faire abandonner notre position de fille ou de fils de Dieu en Christ. Troisième tentation. Le Christ est tenté de se démontrer, de se prouver sa qualité de fils de Dieu. Le diable pousse à dire « Montre-moi que tu es le fils de Dieu. » Dans cette tentation, l'astuce diabolique consiste à faire douter. C'est ce qu'il fait avec nous souvent. À faire douter. Le Seigneur en lui faisant oublier sa qualité de fils de Dieu. Et ensuite à lui faire retrouver dans un acte à sensation. Jette-toi du haut du temple. Jette-toi du haut du temple. Pour se prouver à lui-même qu'il est le fils de Dieu. Ah oui, je n'ai pas perdu ma qualité de fils de Dieu, pourrait dire Jésus. Je me jette. Les anges vont m'attraper de toute façon. Je me jette. Et dès que j'atterris, ah oui, effectivement, je suis le fils de Dieu. Ou dire, ah oui, regardez, je l'ai cette qualité de fils de Dieu. Je me jette du haut du temple et j'atterris dans les bras des anges. On aurait trouvé ça normal, le fils de Dieu. Il se prouverait ainsi à lui-même et aux autres qu'il est réellement le fils de Dieu. Voilà l'astuce diabolique que le diable fait encore avec nous. Regardez-vous. Vous voyez, votre marché là, tous les matins, comme vous êtes là. Ça, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous regardez. Ah oui, effectivement, la culpabilité. Bien que la repentance est bonne, elle est sainte, la repentance. C'est quand la culpabilité et la repentance, c'est pas pareil. Soit on se repent qui donne la vie et je reconnais devant le Seigneur, entre moi et lui, effectivement, tu m'as montré quelque chose au fond de moi et je le confesse. Ce qui n'est pas pareil comme la culpabilité où le Seigneur nous remet en question pour nous dévier de notre position, pour qu'on nous dise, peut-être que je ne suis pas chrétien. Il a tout gagné. Et c'est ce qu'il a essayé déjà de faire avec le Seigneur. Et souvent l'adversaire nous conduit dans des situations où nous sommes poussés à prendre le commandement et l'initiative des opérations. Il nous dévie, maintenant vous me dites, vous pouvez. Et on est en train de marcher à côté du Seigneur. Alors que le Seigneur dit, mais je vous attends, venez en moi. Non, on marche à côté. Et on fait les efforts. Allons-y. L'initiative des opérations à caractère spirituel, sans se douter qu'on est complètement en dehors du contexte du plan de Dieu. Si cela s'applique pour l'Église, cela s'applique aussi pour le couple homme-femme. Quand l'homme ou la femme quitte le contexte du couple, agit d'une manière séparée de ce contexte, c'est la défaite. Quand on est un couple, c'est dans ce contexte de couple que j'agis avec l'extérieur. Mais si dans ce contexte de couple, j'agis tout seul parce que je dis je suis en contradiction avec le couple, c'est que je suis hors contexte. Hors contexte. C'est ce qui est arrivé à Ève au début de l'histoire humaine. Alors Satan l'a eu parce qu'elle a agi en dehors de ce contexte de couple. Beaucoup de ménages s'écroulent à cause de cela, jusqu'à remettre en question le couple lui-même et le contexte. Si Dieu ne nous arrête pas de temps en temps par quelques cuisantes défaites qu'il permet, alors nous nous établissons faussement dans une sorte de supériorité spirituelle. Surtout si cette supériorité est masquée par un semblant de réussite au départ. C'est ainsi que la division commence à s'introduire dans l'Église à cause d'une obsession pour une reconnaissance ou pour un statut spécial. C'est Dieu et Dieu seul qui nous a fait héritiers. Et les dons ne sont que les arts de cet héritage. Nous sommes des filles et des fils de Dieu par la parole faite chair. Et c'est par la parole que Christ a été crucifié Et par la parole, il a été ressuscité le troisième jour. Et le Saint-Esprit en rend témoignage à notre esprit de cette réalité-là. Je vous ai lu tout à l'heure Romains 8, verset 16. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Croire à ce témoignage et recevoir ce statut de fille et de fils de Dieu. Comme un don, et non pas le soumettre à un test. Ce qui est très dangereux, car nous ouvrons la porte à l'adversaire où il peut faire des ravages extraordinaires dans l'Église et en nous. Et c'est seulement dans cet état que les dons spirituels prendront toute leur place et toute leur signification, car ils sont alors correctement utilisés, selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'Église du Seigneur, remplie de membres qui se complètent dans le corps du Christ, et j'insiste sur le mot « qui se complètent », avec des qualités et des défauts, nous sommes appelés à lutter, à dénoncer les tentations qui se dressent devant nous. Nous ne pouvons le faire qu'en restant dans notre position simple de gracier en Christ, en celui qui a payé le prix à notre place. C'est dans une communion spirituelle avec le Seigneur, par conséquent dans une communion avec tous les frères et sœurs, que nous pouvons témoigner au monde, témoigner autour de nous, témoigner au sein de notre famille, de la victoire déjà accomplie. Je termine. L'obscurité grandit dans le monde. Satan jette toutes ses forces dans la bataille, parce qu'il sait qu'il a perdu. Et il sait qu'il a perdu depuis 20 siècles. Il a découvert sa défaite le matin de la résurrection, mais il en profite, car peu le savent qu'il est vaincu. Et ce matin, nous lui rappelons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es vaincu. Est-ce que nous allons le décevoir, notre Seigneur? Est-ce que nous allons décevoir le monde aussi? Allons-nous triompher des tentations qui quotidiennement et semaine après semaine s'abattent sur nous, sur notre Église? Ou alors allons-nous sombrer? Allons-nous accepter la situation de posséder la fatalité? Et pour finir, terminer l'histoire de l'Église dans une note extrêmement négative, comme ton passage, ton verset que tu as lu, Didier, fini? Le Seigneur dit par la bouche de l'Esprit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte. » C'est une parole qu'il répète 1000 fois, 100 000 fois. Il continuera à la répéter. J'entrerai chez toi et je souperai chez toi et toi avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.